I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui c'est le plus fort, un épisode spécial tennis aujourd'hui avec mes quatre invités, Camille Pain, Nicolas Escudé, ancien joueur et joueuse et consultant pour Eurosport, Bertrand Milliard et Laurent Vergne, journaliste pour Eurosport. Bonjour à tous.
Salut
tout le monde.
Salut.
Depuis quelques semaines, voire quelques mois, le débat ressurgit régulièrement sur qui est le plus grand joueur de tennis de l'histoire. Et il nous est apparu opportun de traiter ce sujet après le 20e titre du Grand Chelem de Rafael Nadal, qui rejoint au sommet du classement un certain Roger Federer, en ayant battu, évidemment, en finale de Roland-Garros, Novak Djokovic, le troisième larron, on pourrait dire, dans ce débat sur le GOAT. Pas facile, je ne vais pas vous demander tout de suite qui est pour vous, selon vous, le plus fort, parce que c'est un vaste débat et c'est celui auquel on va s'atteler aujourd'hui. Avant ça, pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à vous abonner pour recevoir directement sur vos smartphones les nouveaux épisodes. Alors, qui est le GOAT ? Nadal, Federer, j'ai envie de dire, ou Djokovic ? Est-ce qu'on peut s'avancer ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on met dans cette définition du GOAT ? Camille, pour toi, qu'est-ce qui fait que l'un est le plus grand?
Alors déjà, Adrien, je pense que tu as évoqué Novak Djokovic. Pour l'instant, aujourd'hui, on le met de côté. Si vous êtes tous d'accord, enfin si mes collègues sont d'accord, on va rester juste sur Roger et Rafa, parce qu'au-delà de ce chiffre 20 et 20 qui vient d'être actualisé, ce sont deux joueurs qui sont indissociables. Et il y a plein de critères dont on va parler. Je pense que ça va être assez houleux. Et puis, on va même peut-être changer d'avis au fur et à mesure du débat. Mais moi, en regardant les chiffres, bien sûr, ils ont 5 ans d'écart. Donc, difficile de faire des comparaisons. Ils ont le même nombre de grands chelems gagnés, ça, tout le monde le sait. Moi, je me suis quand même intéressée à la régularité sur la carrière et notamment au nombre de semaines numéro 1. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est Roger qui est à 310 semaines numéro 1 contre 209 pour Rafa. Donc, c'est vrai que sur leur longévité en carrière, il y a vraiment un petit plus. Alors, ce n'est pas le seul critère. On va parler aussi, j'imagine, avec les collègues de l'aura, de qu'est-ce qui dégage, qu'est-ce qui fait un grand joueur. Il y a les chiffres, mais il y a aussi ce qui dégage, la popularité. Et c'est vrai que moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'écart entre les deux joueurs. Et alors après, on dit Rafa, il va peut-être jouer encore 5 ans alors que justement, Roger va s'arrêter. Mais encore une fois, on est aujourd'hui en 2020 et il faut qu'on analyse ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on n'est pas devin et on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Donc c'est vrai que pour moi, cette régularité en numéro 1, c'est un critère important pour moi.
Alors toi, le numéro 1, c'est un critère important. Pourquoi on a fait ce podcast aujourd'hui? C'est avant tout pour le palmarès. C'est les 20-20, on ne va pas se mentir. Si on se base pour commencer sur le palmarès, Bertrand par exemple, pour toi, quand il y a deux joueurs qui sont égalités comme eux, comme Roger Federer et Rafael Nadal, qu'est-ce qui peut faire la différence?
Alors, il y a plusieurs possibilités pour juger ça. Une serait par exemple de retirer à chacun son meilleur grand chelem. Alors si on le fait avec Roger Federer, son meilleur grand chelem c'est Wimbledon, il en a gagné 8, ça ferait 20 moins 8, il reste 12. Si je le fais avec Nadal, c'est Roland-Garros, c'est 13, ce qui est absolument monstrueux. Je pense que c'est le plus grand exploit sportif, tout sport confondu de tous les temps. Mais si je fais 20 moins 13, on se retrouve à 7, ce qui veut dire que Federer donc a gagné, on va dire, en grand chelem de façon un peu plus large sur tous les grands chelems. D'ailleurs, il a gagné au moins 5 fois tous les grands chelems à part Roland-Garros, ce qui est déjà quelque chose aussi d'assez monstrueux. Donc, si on enlève la meilleure surface, c'est important parce qu'il y a 4 surfaces dans le tennis. En grand chelem, il y en a 3, même 4 si on considère que ce n'est pas le même dur en Australie et à l'US Open. Là, Federer est devant en ce qui concerne, on va dire, les surfaces hors meilleures surfaces. Mais dans leur confrontation en Grand Chelem, Nadal est devant. Alors évidemment, c'est lié en grande partie au 6-0 de Roland Garros, mais pas uniquement. Nadal est devant quand même à l'Open d'Australie. Il mène 3-1, donc sur dur, où a priori Federer devrait être un petit peu au-dessus. Et puis, il y a quelque chose que je pense de très important dans ce débat. Federer n'a jamais battu en Grand Chelem Nadal sur sa surface, c'est-à-dire sur terre battue. En revanche, Nadal a battu Federer sur sa surface, le gazon, en finale en 2008. Alors, ça ne s'est pas joué à grand-chose, c'est vrai. C'est un des plus grands matchs de la décennie 2000-2010. Et Nadal l'a fait. Il a fait quelque chose que Federer n'a pas pu faire, lui, de son côté. Donc, je pense que ça aussi, ça compte. Et vous voyez qu'en prenant ces critères-là, bah déjà, c'est difficile de départager parce que d'un côté, si on enlève la meilleure surface, bah c'est plutôt Federer. Mais si on prend un tel a battu l'autre sur sa meilleure surface, là, c'est Nadal. Donc déjà, avec des critères chiffrés comme ça, c'est difficile de départager.
Je suis sûr que Laurent ne va pas être d'accord. Enlever la meilleure surface, c'est compliqué pour Rafa, par exemple.
Bah, je vois pas bien, je comprends le calcul, mais je vois pas bien au nom de quoi on retirait la meilleure surface de chacun. Bertrand l'a dit, 13 Roland-Garros, c'est quelque chose d'hallucinant. Il faut quand même se rendre compte que tout tournoi confondu, Grand Chelem ou 250 ou ce que vous voulez, hommes et femmes confondus, jamais personne n'avait gagné 13 fois un même tournoi. Le record, c'était Navratilova à Chicago, je crois, et donc Nadal à Roland. Désormais, il est tout seul et lui, il le fait en Grand Chelem, dans un Grand Chelem. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de lui retirer ça. Et puis ça accrédite un petit peu.
Je ne lui retire pas.
J'ai bien compris. Mais même si ce n'est pas ton propos, je le sais, mais ça accrédite un petit peu ce côté. Oui, mais enfin, c'est quand même d'abord surtout un joueur de terre battue. Il y a un champion de terre battue. Or, même si on lui retirait ses 13 grands chelems, il a encore le palmarès de McEnroe à côté, quand même, par exemple, ou de Vilander. Donc après, je ne suis pas non plus tout à fait d'accord avec Camille pour laisser Djokovic aussi facilement de côté. Pour moi, c'est vraiment une course à trois. D'abord parce que, alors évidemment, là, on est sur le 20-20 en Grand Chelem. Mais est-ce que seul le Grand Chelem doit déterminer qui est le plus grand joueur de l'histoire? Et dans ce cas-là, bah, ce n'est pas très compliqué. En tout cas, c'est un Federer de Nadal ou le contraire. Enfin, quid de quelqu'un comme Rod Laver qui n'a pas joué de Grand Chelem pendant 6 ans? Quid de quelqu'un comme Ken Rosewall qui a gagné 7 tournois du Grand Chelem alors qu'il n'en a pas joué un seul entre 21 et 34 ans? Quid de Bjorn Borg qui n'a jamais joué en Australie parce qu'à l'époque il y avait quasiment 3 Grands Chelems plus l'Open d'Australie qui était quand même très sous-coté par rapport aux autres?
Il n'a jamais gagné l'US Open, Bjorn Borg. Hein,
je suis d'accord, mais.
Parce qu'ils l'ont joué, ils l'ont fait jouer en nocturne.
Il avait joué l'Open d'Australie, lui comme d'autres d'ailleurs, parce que Connors l'a gagné une fois, mais il est très peu allé après. Donc, ce que je veux dire, c'est que les comparaisons d'une époque à l'autre sont très compliquées. Maintenant, si on compare avec les trois actuels, on ne peut pas laisser Djokovic de côté. Pour quelles raisons? D'abord, parce qu'il domine depuis 10 ans le tennis mondial. Sur les 10 dernières saisons, 2011-2020, donc c'est quand même une période qui me paraît assez conséquente, Djokovic a gagné plus de tournois du Grand Chelem que Federer et Nadal réunis.
Et il est plus jeune.
Il a un an de moins que Nadal. Il a pas non plus. C'est un joueur de la même génération.
Il a 6 ans de moins que Federer. Tu te rends compte si tu prends.
Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que Djokovic, c'est aussi quelqu'un qui va plus que probablement battre le record de semaine à la place de numéro 1 mondial. C'est quelqu'un qui a terminé énormément de fois numéro 1 en fin de saison, qui va encore le faire cette année. C'est quelqu'un qui domine et Nadal et Federer dans les head-to-head. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de dire ça aujourd'hui, alors qu'il vient de subir la pire défaite de sa carrière en Grand Chelem depuis l'US Open 2006 contre Leighton Hewitt. Mais malgré tout, je pense que Djokovic est un peu au-dessus des deux autres dans les confrontations directes et c'est lui qui domine. Donc l'écarter aussi facilement, ça me paraît compliqué et pour moi, c'est le plus complet. C'est-à-dire qu'il est plus fort que Federer sur terre battue, il est plus fort que Nadal sur gazon, il est extrêmement fort en indoor, sur dur, il n'a pas vraiment de faiblesse. Donc, ce que je trouve intéressant dans ce débat-là, c'est qu'ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Djokovic, il n'a que 17 grands chelems, donc effectivement, c'est à mettre dans une catégorie qui le dessert. Mais Nadal, par exemple, a un bilan extrêmement faible en indoor. Il n'a jamais gagné le Masters. Pour moi, c'est quand même, quand on est un très grand champion, une lacune qui n'est pas anodine, alors que Federer et Djokovic l'ont gagné
6 et 5 fois.
6 et 5 fois, voilà. Et quant à Federer, bah, son problème, c'est quand même que globalement, il est dominé par les deux, dans l'absolu, et en Grand Chelem, et en finale de Grand Chelem. Donc les trois ont leurs atouts, les trois ont leurs faiblesses, et pour moi, tout dépend des critères que l'on met derrière cette notion de plus grand joueur de l'histoire. Et la réponse, elle ne peut dépendre que de ces critères-là. Et j'en parlerai après, mais je vais laisser la parole à Nicolas.
Non, je vais rester sur Roger et Rafa. Ils sont difficilement dissociables. Alors certes, j'ai entendu les chiffres. Oui, il faut se baser sur les chiffres pour pouvoir arriver à départager et on ne peut pas faire sans. L'un sans l'autre, je ne pense pas qu'ils auraient eu la carrière qu'ils ont eue. Donc c'est pour ça, en soi, pour moi, que je les trouve très difficilement dissociables. Moi, de l'approche que j'en ai, je vais surtout parler du jeu. Un Rafa, pour moi, a su faire évoluer son jeu tout au long de sa carrière. Ça, c'est indéniable. Contrairement à un Roger qui, lui, a pu, non pas se reposer sur ses lauriers, mais avoir beaucoup plus de facilité, très jeune, d'entrée, un talent tennistique que Rafa n'avait pas forcément. Rafa a d'autres talents, ça on le sait, que ce soit physique et mental, mais aussi tennistiquement aussi. Et un Roger rend facile le tennis. C'est-à-dire que n'importe qui devant sa télé va voir jouer Roger Federer et dans la foulée va aller s'acheter une raquette parce qu'il va pouvoir se dire « Ah, mais c'est facile de jouer au tennis ». Quand on voit jouer un Rafa, on ne se dit pas « C'est facile ». On ne se dit pas « C'est facile ». On se dit « C'est compliqué, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire, c'est incroyable ce qu'il arrive à dégager, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire ». Donc pour moi, au-delà des pour forcément y venir dessus, les chiffres, les confrontations, Rafa est, à mon sens, le joueur qui a pu et qui a su tirer la quintessence des possibilités, des capacités qu'il pouvait avoir par rapport à un Roger. Et avec tous les titres, tous les confrontations directes, comme on a pu le dire, face à un Roger où il le tient bien et il l'a battu en plus sur toutes les surfaces, dont la surface de Roger, à savoir sur Wim. Pour moi, Rafa est... moi, je le mettrais GOAT. Ouais. Pour moi, il l'est. Alors que je préfère regarder Roger Federer.
C'est intéressant de... Voilà, on a le premier qui s'est mouillé, concrètement, Nicolas Escudé. Pour lui, c'est Rafa. Camille, si on parle un peu de jeu, tu entends ces arguments de Nico, toi qui a joué aussi de nombreuses années. Il t'impressionne, quel est celui qui t'impressionne le plus en termes de jeu?
En termes de jeu, moi, clairement, c'est Rafa. Ce qu'il a pu produire et faire évoluer, parce que on a l'impression que c'est sa tête qui lui a permis. Il avait des capacités au départ comme Roger, mais c'est cette espèce de volonté hors norme qui lui a permis d'arriver à ce niveau-là. Et quand je le vois jouer, que je vois jouer comme il a pu jouer là, je me dis mais c'est-à-dire que le gars, quand on les voit jeunes, ils sont déjà en junior, des demi-rois. A un peu déroulé tranquillement. Et c'est vrai qu'en termes de jeu, tu te dis, mais comment ce gars-là qui était 4 mètres derrière, il arrive maintenant à produire ça? Donc moi, au niveau du jeu, je suis assez d'accord avec Nico. Après, moi, j'ai vraiment une partie qui, pour moi, est importante aussi, au-delà des chiffres et du jeu, c'est la popularité et le côté aura et humain de l'athlète. Parce que je pense que ça perdure tout autant que les chiffres. Et moi, au niveau humain, je trouve qu'un Rafa est d'une humilité par rapport à ce qu'il a fait qui est hallucinante. J'adore son éducation, j'adore sa simplicité. Il va toujours. Il est assez timide comme gars, quand même. Hein. C'est pas un grand communicant. On le voit dans ses discours. Il reste encore très enfant, mais il a une vraie sincérité qui, moi, me touche énormément. En revanche, par rapport à ça, je trouve que Roger est un maître du jeu, mais un maître justement en communication, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va prendre le micro en fin de match, n'importe qui va se dire « mais ce gars-là, il est extraordinaire ». Il va avoir un petit joke très sympa.
Ça ne peut pas paraître un peu lisse par moment ?
Non, moi je trouve qu'il a une répartie, Roger. Enfin, c'est un bijou. Et je pense que dans la durée... quand dans 20-30 ans on parlera du tennis, je pense qu'un Roger, même si à un moment donné il va être dépassé en grand chelem, Il a quelque chose, il a une élégance quand il est sur le terrain, que moi je trouve très sympa, mais à la limite je préfère un Rafa qui se bat comme un mort de faim. Mais je pense que c'est ça, c'est cette image-là qui va peut-être rester. Et aussi cette faculté qu'il a à parler en public. Je pense que les gens, c'est leur contact avec les joueurs, c'est qu'est-ce qu'il va dégager sur une fin de match, sur un interview, ce qu'il va faire en dehors avec des assos et qu'est-ce qu'il va dégager. Et je pense que Roger, là-dessus, en plus du jeu, a quelque chose à transmettre. Et je pense que ça, c'est assez important. Donc, moi, j'irai sur Roger. Voilà, je m'affiche.
Je suis d'accord avec ça sur le côté. Pour moi, Federer, je ne sais pas s'il est le plus grand joueur, un plus grand joueur que Nadal, un plus grand champion que Djokovic. En revanche, je pense que c'est aujourd'hui et de loin le personnage le plus important du tennis. Et c'est une rockstar, c'est un peu l'équivalent de ce qu'était Borg dans les années 70. Voilà. Borg n'avait pas battu à l'époque le record de Grand Chelem d'Emerson, mais qui peut penser que Borg est un moins grand personnage qu'Emerson dans l'histoire du ce sport. Et Federer, quand on voit ce qu'il a fait l'année dernière, sa tournée en Amérique du Sud avec Zverev, je crois. Zverev était là parce qu'il fallait quelqu'un de l'autre côté, mais ça aurait été Goffin ou...
Ça devait être Del Potro normalement, mais il ne pouvait pas jouer.
Ouais, mais je pense que dans l'absolu, ça ne changeait rien. Les gens étaient venus voir Federer et on a vu des images complètement délirantes. Hein. C'était les Beatles et les Rolling Stones réunis. Federer, quand il arrive, il crée quelque chose dans des pays qui n'ont rien à voir de loin avec le tennis, qui voient peu de tennis, mais là, il jouit d'une popularité qui est complètement dingue et qu'à mon avis, ni Nadal, ni Djokovic, ni personne ne peut égaler. Et nous, on le voit également dans les audiences. Vous faites un article sur Federer, vous diffusez un match de Federer, c'est un blockbuster à chaque fois. Alors que le tennis, c'est plutôt un sport, l'ATP s'en plaint beaucoup, qui est en perte de vitesse en termes d'audience globalement au niveau international. Mais l'exception, c'est Federer. Vraiment.
On en revient au jeu, parce que vous disiez, Camille et Nicolas, on parlait justement du jeu, de l'évolution du jeu de Nadal. C'est magnifique tout ce qu'il a fait de cette évolution, etc. Peut-être que Federer a moins évolué, encore que son revers, on l'a vu quand il est revenu pour gagner l'Australie en 2017, avait énormément progressé. Mais on en revient à ça. Je crois que la personne qui aime le tennis, s'il y a un match programmé avec Federer, elle a envie de voir ce match, quel que soit l'adversaire, quel que soit le lieu, quel que soit le tournoi, on a envie de le voir jouer. L'inverse n'est pas forcément vrai pour les deux autres. Nadal, c'est magnifique ce qu'il fait, mais ça reste plus, entre guillemets, hein, laborieux. C'est quelque chose de très travaillé, mais il y a aussi tout le temps qui est pris entre les points, les tics, les tocs, les 45 secondes. Federer, ça va vite. Ça va vite, donc c'est du plaisir parce qu'on voit du tennis. Le jeu est rapide, le jeu est spectaculaire. On ne sait jamais à quoi s'attendre parce qu'il y a des plans B chez Federer. Il y a pas mal de choses. Il sait tout faire, en fait. Donc, il peut créer énormément. Il crée énormément de jeux. Je ne vais pas dire que les autres n'en créent pas. Mais Nadal, il s'en sort sans plan B. Voilà, sinon, bah, il perd contre Djokovic.
Ah, je suis pas d'accord.
Djokovic en Australie l'année dernière. Bah, il prend une tôle parce que Djokovic est simplement supérieur complètement ce jour-là et qu'il ne peut rien changer. Oui, mais pas d'accord. Je comprends que tu ne sois pas d'accord, mais néanmoins, je pense que le jeu de Federer, en règle générale, va être plus attractif, sauf peut-être pour des gens qui adorent ce jeu-là de terre battue à la base, hein, etc. Même si, encore une fois, Nadal sait tout faire, que c'est un bon volleyeur, mais je crois que ce jeu est plus attractif, d'où la popularité aussi, au-delà de la personnalité, d'où le fait que, je crois que 9 ans de suite, il a gagné lors du Masters le prix du joueur le plus populaire sur le circuit. Ça, c'est les fans qui votent. Donc, les fans de tennis préfèrent Federer. Ça, c'est évident. Ça a été quasiment pendant une décennie décidé comme ça par les fans. Après, sur l'aspect mental qu'a évoqué Camille, là, je crois que les deux autres sont nettement au-dessus. Je crois que Djokovic et Nadal sont les deux GOAT, même au-dessus de Connors, c'est-à-dire qu'ils étaient peut-être avant le plus gros mental. Voilà, ils sont au-dessus. Et la preuve, c'est que le 14 juillet 2019, Federer avait 4 balles pour faire un ace, pour faire un point qu'il n'a
tu
pas fait.
Tu t'en remettras jamais de celle-là.
Ce n'est pas une question de ne pas s'en remettre, mais s'il avait fait ce point, on ne serait pas là pour faire ce débat aujourd'hui parce que pour l'instant, il serait à 21 et donc il serait toujours au-dessus. Donc, je pense que et contre Djokovic, c'est quand même 3 fois dans sa carrière qu'il perd en grand chelem après avoir eu des balles de match. Donc, là-dessus, on ne va pas dire que Federer a un petit mental. Hein. C'est loin de là. Quand on a gagné 20 grands chelems, on a un sacré mental. Mais par rapport aux deux autres, sur ce plan-là, il est un petit peu en dessous. Mais ce n'est pas ça qui fait un GOAT, à mon avis. Peut-être même que finalement, à l'arrivée, ses faiblesses, cette petite faiblesse, cette faiblesse d'avoir laissé filer des balles de match en finale pour un 9e grand chelem, pour un exploit unique à 38 ans, de battre les deux rivaux dans le même tournoi. Peut-être que ça le rendra encore plus humain et plus populaire. En tout cas, au niveau popularité, il n'y a pas photo. C'est Federer, comme l'a dit Laurent, qui est largement au-dessus. Et ça compte forcément dans le bilan final du GOAT.
J'entends ouais. vos arguments, mais dans l'époque dans laquelle on vit, où la performance est quand même mise en avant, est-ce que ce n'est pas une vision un petit peu romantique que vous avez sur Roger, le beau jeu, l'aura, etc. Dans 10 ans, si Federer a été dépassé de 5 ou 6 grands chelems par Djokovic et Nadal, le débat peut-être n'aura plus lieu d'être. Parce que
déjà, ce ne sera pas le cas, hein, je te l'annonce. Parce que déjà, Djokovic, il est à 17 pour l'instant, qu'il arrive déjà à 20. Et on verra s'il y arrive. Les grands chelems sont très faciles à gagner sur le papier, beaucoup moins sur le terrain. On verra, peut-être qu'il y aura quelqu'un à 21, 5 ou 6 de plus, il ne faut pas rêver, hein. Ils ont quand même 34 et 33. Hein.
Mais il n'y a qu'à voir, quand il est tout seul, même sur le grand chelem, il s'élimine tout seul. Donc,
Ouais, et d'ailleurs, peut-être que l'année 2020 restera comme le tournant pour Djokovic. Alors on verra, hein, peut-être qu'il finira à 20, à 21, à 22, à 35, j'en sais rien. Mais je pense quand même que cette année 2020, pour lui, risque d'être un tournant dans le mauvais sens du terme, parce que c'est une année où il est ultra dominateur. Il a perdu dimanche pour la première fois à la régulière, alors qu'on est mi-octobre, alors même si c'est une année un peu spéciale. Mais l'annulation de Wimbledon, où sans Federer, il aurait été pour moi archi-favori, et sa disqualification à l'US lui coûte peut-être deux titres du Grand Chelem, qui auraient vraiment pu changer la donne. Et finalement, à l'arrivée sur cette année 2020, il a un Grand Chelem, comme Nadal, que un de plus que Federer qu'on aura joué qu'un. Il ne fait pas une très bonne affaire dans cette optique-là, à mon avis.
Oui, mais avec des cycles, comme tu sais, Laurent, moi Federer, je lui en faisais gagner 30. Tu vois, le 14 juillet 2019...
Ce n'est pas des cycles, il n'a pas eu Wimbledon.
Non, mais
il
voilà.
Il s'est disqualifié. Et je pense
oui, il s'est disqualifié, mais ça fait partie du jeu.
Bien sûr, mais je ne dis pas le contraire. Je dis que ça risque de lui coûter cher dans la course au titre.
Comme Federer, en 2019, tu coûtes cher parce que normalement, il peut gagner Wimbledon à un point près. Et
perdre un match en ayant une balle de match, ce n'est pas pareil que ne pas jouer un grand chelem qui est annulé ou de se faire disqualifier, ce qui n'était jamais vu pour un numéro 1 mondial, un grand chelem. C'est des circonstances très exceptionnelles quand même.
Ah mais ça moi je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que là cette année 2020 et quoi qu'on en dise, les raisons pour lesquelles Novak est parti à New York et jouer l'US, on les connaît tous, contrairement aux deux autres qui ont fait l'impasse, dont un qui se préparait, un qui était blessé, l'autre qui préparait surtout Roland Garros qui était son objectif de saison. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, on ne sait même pas s'il va rejouer derrière. Que ça va lui coûter cher parce que sur en soi un potentiel doublé US Open Roland, il y en a zéro. Aucun des deux. Quoi qu'on en dise, je suis persuadé aussi que la façon dont il s'est fait sortir à l'US Open va le marquer. Ça, j'en suis intimement persuadé. Ça l'a marqué, oui, il est passé à autre chose, il a gagné Rome derrière, oui, à Roland, il va jusqu'en finale, mais il prend quand même une bonne branlée. Je suis sûr que ce fait de, entre guillemets, de jeu va lui rester en travers de la gorge pendant un bon petit moment parce que normalement, l'US Open lui était promis, mais au-dessus de tout le monde. Et donc voilà pour Novak et pour aller dans ton sens, Laurent. Et surtout, pour juste revenir sur Bertrand tout à l'heure quand tu disais que, alors je suis entièrement d'accord, Federer, Rockstar, partout où il va dans le monde, c'est juste hystérie collective. Oui, les gens se déplacent beaucoup plus facilement pour aller voir jouer un Roger que pour aller jouer un Rafa. Mais pour un œil, on va dire, déformé comme le nôtre et surtout le mien, sur le jeu, sur l'aspect tactique, sur Rafa, c'est un régal quand je vois tactiquement les modifications qu'il a pu apporter sur ce Roland par rapport à Rome. Quand je vois, on parlait tout à l'heure de plan B, en soi, pour moi, tactiquement parlant, Rafa est celui des trois qui a le plus de plan B. Il a cette faculté et il n'a pas le choix parce qu'il se retrouve aussi par moments face à certains joueurs et certains calibres de joueurs où s'il ne s'adapte pas tactiquement, il ne pourra pas passer. Et il le fait. Et il le fait tout le temps. Et il le fait évoluer. Et quand je vois, et j'en parlais, quand je vois son match à alors certes, il manquait de compétition derrière lui. Quand je vois son match contre Schwartzmann à Rome et que je vois ce match contre Schwartzmann à Roland, tactiquement, mais c'est un pur régal. Alors, est-ce que tout le monde, je pense, n'est pas apte à pouvoir le voir, le déceler, mais c'est un régal à voir. C'est un régal à voir.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que tactiquement, comme tu viens de le dire, Nadal joue très bien le coup en n'allant pas à New York. Et c'est là qu'on voit
que ces trois-là, ils n'ont qu'une seule chose en tête, c'est de devenir le GOAT, c'est d'avoir le record en Grand Chelem. Nadal, pourquoi il ne va pas à l'US Open? C'est qu'il peut se blesser, c'est que l'enchaînement est très délicat. Objectif majeur, gagner Roland, il sait que c'est là qu'il a le plus de chance, un 13e Roland. S'il gagne un 13e Roland, il sait qu'il est à 20 partout avec Federer. Et je pense que là, quel va être maintenant l'objectif majeur de Nadal? Un 14e Roland. Ce n'est pas dans longtemps, c'est dans 8-9 mois. Il est évident que c'est là qu'il a le plus de chance de passer carrément devant, d'être à 21-20, et là, il n'y a peut-être plus de débat. Donc, je pense qu'il va se focaliser encore une fois à fond sur cet objectif-là, parce que l'objectif, il ne faut pas se tromper, maintenant, lui, gagner des Masters 1000, mais rattraper Djokovic, par exemple, le Masters 1000, je pense qu'il s'en fiche complètement. C'est l'objectif, c'est de, le 21e, c'est quand même le juge de paix, les grands chelems, et d'aller chercher ce titre qui le ferait basculer carrément en tête devant Federer.
Camille, tu veux ajouter quelque chose sur en entendre Nico, c'est presque Nadal qui est en avance sur bon, le palmarès est égal, mais sur la tactique, sur certes l'aura est moindre que celle de Federer, mais on peut pas dire que Nadal ce soit un nobody. J'ai l'impression presque que Federer c'est l'esthétique qui fait le passer un petit peu au-dessus. Est-ce que c'est un peu un avis que tu partages?
Oui, de toute façon, on le voit même dans la formation en France et en Suisse, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand on commence la formation des enfants, bon, on va détecter plus facilement celui qui a une espèce de facilité gestuelle, une stature peut-être plus que celui qui va être un peu plus besogneux, mais qui va avoir une fin d'apprendre, de progresser. Et après, c'est toujours justement, moi, ça m'intéresse ce côté détection. Et on a vraiment les deux opposés. C'est qu'on a un Roger, effectivement, qui a peut-être eu moins besoin de se remettre en question parce qu'il a ce talent-là dans sa raquette. Il est capable, au niveau biomécanique, de faire des choses incroyables, tout comme Rafa. Mais Rafa, peut-être en utilisant un peu plus de puissance, en s'investissant un petit peu plus. Donc, effectivement, c'est l'esthétisme contre, pour moi, le travail et l'abnégation. Et je pense que, en tout cas, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, des jeunes joueurs, aujourd'hui, moi, je privilégierais peut-être, c'est dur à dire ça, plus un joueur comme Rafa qui montre qu'en fait, avec des qualités hors normes, qui sont peut-être pas un revers à une main de dingue, longue ligne, en fermant les yeux, entre guillemets, parce que Roger, il est toujours bien placé, il le fait pas par hasard, mais c'est un peu l'image qu'ont les jeunes. Moi, j'irais plutôt sur des joueurs qui ont les qualités de Rafa, qui ont des qualités de cœur mais monstrueuses et des qualités mentales, justement, comme tu disais, Bertrand, dans des moments importants, juste hallucinants. Et donc, moi, là, je rejoins plus Nico que Rafa, pour moi, est un immense modèle pour nos jeunes. Peut-être plus qu'un Roger qui est né avec ses qualités et qui nous les montre et on se régale. Mais il y en a un comme ça et je pense qu'il a peut-être un petit peu moins réfléchi sur ses options à faire évoluer parce qu'il n'en avait pas besoin, tout simplement.
Vous avez oublié quand même le retour de Federer en 2017. Hein. Je vous invite à revoir la finale de l'Open d'Australie.
Oui, mais pas d'évolution dans son jeu.
Le revers, c'est quand même le point faible qu'il a face à Nadal pendant quasiment toute sa carrière. Ce jour-là, il gagne cette finale, il la gagne quasiment avec son revers. Donc, c'est quand même une évolution énorme qu'il avait faite avec Edberg.
D'ailleurs. Oui, il ne l'a pas gardé. Ouais, il l'a faite sur un moment. Et puis, toi, ce n'est pas une évolution pérenne. Tu sens qu'à un moment, il a voulu surprendre. Et puis, on en a parlé pendant X temps. Mais après, dans son jeu, on le revoit jouer. C'est aujourd'hui, cette année. Tu te dis, bon, ben oui, ça a été un petit plus dans son jeu, mais qui n'est pas resté. Donc, pour moi, ce n'est pas une vraie évolution, tu vois.
Et de toute façon, si avec Jean-Paul Loth, nous arrivons au pouvoir à l'ITF, hein, si un jour on est élu, faudra d'ailleurs se présenter. Notre programme, c'est d'interdire le revers à demain. Donc de toute façon, là, dans ces cas-là, on prend le débat du GOAT. Oui, on enlèvera donc évidemment les titres des grands chelems des joueurs à demain. Et là, il n'y aura plus photo. Je crois que là, bon, il y aura Federer, il y aura Sampras, deuxième. Mais,
non, il faut une wildcard pour Nicolas Escudé quand même. Au niveau du revers à deux mains.
Nicolas n'a pas besoin de faire de revers. Il monte direct au filet. Volé de revers, c'est à une main. Et comme ça, et retour. Allez, retour volé, tu peux le faire à une main, Nico, puisque tu peux slicer.
Donc, t'as plus. Il peut jouer en gaucher, Bertie. Il prend main gauche.
Après, juste un truc par rapport à ce que tu disais, Camille. Mais je sais que tu ne l'as pas dit, mais que tu le pensais. Les trois, Rafa, Roger, Novak, ils bossent tous comme des tanners.
Ah oui, non, mais bien sûr.
Non, mais... que Roger ait des facilités, c'est pas pour ça qu'il est assis dans son canapé à ne rien faire.
Non, 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 mais tu fais bien de le dire parce qu'effectivement, il n'est pas juste arrivé avec son talent et puis c'est tout. Il bosse énormément et Djoko, on n'ose même pas imaginer le nombre d'heures qu'il a passé sur le terrain. Donc, tu fais bien de le souligner, effectivement.
Juste pour donc, dire... messieurs, vous en êtes où avec votre GOAT alors?
Alors, moi, je dirais que Bertrand tout à l'heure disait que si dans 7 mois ou 8 mois, je ne sais plus, Nadal gagne Roland-Garros et qu'il passe devant Federer, sous réserve, on ne sait jamais que Federer a gagné à l'Open d'Australie d'ici là, il serait devant. Mais pour moi, ça ne réglerait pas. On ne peut pas, encore une fois, pour moi, limiter la question du plus grand joueur de tous les temps au Grand Chelem. Et pour les raisons historiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Et. Parce qu'il n'y a pas que ça dans le tennis. Il y a le Masters, il y a la place de numéro 1 sur toute une carrière. Et puis, il y a la constance. Moi, ce que je trouve extraordinaire chez Federer, et je suis presque plus impressionné encore par ça que par ses 20 titres, c'est qu'il ait joué 23 demi-finales consécutives en Grand Chelem, qu'il ait joué 36 quarts consécutifs, 9 années de suite en quart de finale de Grand Chelem. Ça, alors bien sûr, on va me dire, Nadal, il a été blessé plus souvent, il est revenu, c'est aussi une forme de grandeur. Je suis d'accord. Mais ne pas être blessé, être au top niveau pendant 9 ans, sans jamais manquer, enfin, un quart de finale de Grand Chelem, Nico...
Oui, mais tout le monde part pas égaux avec ça.
Enfin, oui, bon, je veux bien, mais on ne peut pas considérer que ce soit juste parce qu'il a du talent qu'il a fait 9 années de suite en quart de finale.
C'est juste que c'est pas parce qu'il a que du talent. Ce que je veux dire, c'est que physiquement parlant, le corps, on est tous différents et que en plus, en fonction de la façon dont on peut jouer,
ah oui.
Malheureusement,
je suis d'accord, mais
ça compte la façon de jouer.
Ben oui. Et à l'heure de juger un bilan global, pour moi, cette permanence et cette invraisemblable constance au plus haut niveau. Peut-être que dans 15 ans ou 20 ans, quelqu'un gagnera 25 tournois du Grand Chelem. Mais avant qu'on revoie quelqu'un faire 9 années de suite sans rater un quart de finale, je pense que c'est peut-être plus compliqué à faire. Et ça fait partie pour moi de la grandeur de Federer.
100% d'accord avec Laurent là-dessus.
Donc vous êtes sur Federer, quoi.
Non, je dis que ça dépend. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas limiter ça. Si dans 5 ans, Nadal est à 22, Djokovic à 21 et Federer à 20, si quelqu'un vient me voir en me disant pour moi, Federer reste le plus grand, il aura des arguments. Pour le dire.
Mais c'est simple, en chiffres, Nico, en chiffres aujourd'hui, si on prend les chiffres, c'est plutôt Nadal. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, à part le Masters, effectivement, et c'est pas rien, 6-0 Federer au Masters.
Ouais, c'est quand même une vraie lacune. Il a gagné qu'un tournoi en indoor.
C'est pas rien, c'est vrai. Après, Nadal a gagné les jeux, pas Federer, mais enfin, les jeux dans le tennis, c'est quand même pas hyper important. Donc, si on prend les chiffres bruts, comme je l'ai dit tout à l'heure, Nadal a battu Federer à Wimbledon, Federer n'a pas battu Nadal à Roland-Garros. On va dire c'est Nadal. Mais avec tout ce que vient de dire Laurent, plus l'aura, la popularité, on en a parlé, le style de jeu, l'envie de voir jouer, parce qu'effectivement, tu mets Nadal, Zverev dans un stade, et tu mets Federer, Zverev dans un stade, partout dans le monde, regarde combien tu vas vendre de tickets. Et je pense que là, effectivement, Federer là-dessus, il sera intouchable, il va attirer, je sais pas combien c'était au Mexique, 100 000, je sais plus, enfin c'était monstrueux, 80 000 ou 100 000, ça compte aussi beaucoup, je pense, parce que ça fait gagner ton sport en popularité. Tu arrives à faire grandir ton sport qui est en difficulté en ce moment. Donc, je pense effectivement que ça doit compter aussi dans le GOAT.
Messieurs, dames, j'ai l'impression que vous avez pas mal...
C'est dans la merde.
Vas-y, Bertrand, tu voulais rajouter quelque chose?
J'ai rajouté quelque chose. Là, il n'y a pas de débat. Au moins, on est fixé. Le GOAT du journalisme digital, il est là. Il est dans cette petite fenêtre. C'est Laurent Verne. Et là, il n'y a aucun débat. J'ai vu sur Twitter que personne n'a répondu. Je crois que là-dessus, malheureusement, il est intouchable. C'est pas très marrant, ce qu'on peut même pas faire.
Grave.
Ça, c'est un bel hommage. Ça fait plaisir.
je voulais rajouter un truc, mais je pense qu'on va finir là-dessus.
Tu veux?
Ouais, non, allons-y.
Du coup, c'est sûr qu'en fonction des c'est ce qu'on se disait dès le départ, hein, les critères plus ou moins marqués pour les uns pour les autres feront que vous pencherez plutôt pour Federer.
Je vais quand même rajouter un petit truc.
Vas-y, Laurent.
C'est que il y a quelque chose de très révélateur. Évidemment que Nadal, il a envie, je pense, d'avoir le record du nombre de victoires en Grand Chelem. Mais je le crois sincère quand il disait à Roland-Garros l'année dernière ou quand il gagne la finale de l'US contre Medvedev, il dit « Quand je suis rentré sur le court aujourd'hui, je suis rentré pour gagner l'US Open, pas pour gagner un 19e Grand Chelem. » Il dit « On ne peut pas être jaloux parce que le voisin a une maison encore plus belle et plus grande que la vôtre. » Et je pense qu'il est sincère, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas envie d'avoir le record. Quand Djokovic gagne à Wimbledon l'année dernière, et je trouve ça superbe qu'il l'assume, il dit « Moi, je veux le record. Je veux ce record. » Et pourquoi? Parce qu'à mon avis, il sait qu'il en a plus besoin que les deux autres.
Il est en déficit.
Ah non, mais ça, c'est certain.
Il a davantage besoin de ces stats-là. Et aussi parce que c'est une forme d'injustice, il est arrivé après les deux autres. Donc, il les domine depuis 10 ans. Encore une fois, il gagne plus de majeurs que les deux autres réunis pendant toute une décennie. Et pourtant, il est encore derrière. Donc, pour lui, c'est terrible parce qu'il est le plus fort, mais il n'est pas le plus grand. Et pour être considéré comme le plus grand, lui, il a besoin d'avoir tous ces records-là, ce qui n'est pas forcément le cas des deux autres.
Ah, mais lui, il va jouer plus longtemps aussi, Laurent. Tu vois, c'est que...
Mais c'est une course un peu épuisante, longtemps. Je pense aussi mentalement quand même pour lui.
Comme le disait mon maître Hervé Dutu, attention à l'attitude. L'attitude, Djokovic.
Il va pas forcément jouer plus longtemps que les autres en termes d'âge.
Non, mais il est plus jeune. Il est arrivé plus tard. Il va décaler. Ouais. Donc, faut pas qu'il est plus, quoi. Il a un peu plus.
Mais il est plus.
Ouais, mais il est quand même au contact avec les deux autres, avec encore lui quelques années qui lui restent.
Mais son attitude sur l'ensemble de sa carrière, malheureusement, je trouve, fait en sorte qu'il pourra jamais rattraper les deux autres.
Non.
Il y a trop de polémiques, il y a trop de choses un peu borderline.
Ouais, même avec 25 grands.
Oui, ça compte. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en popularité, alors là, par contre, il est à des années-lumière de Federer et Nadal.
Ce ne sera pas une condition forcément suffisante pour lui, mais c'est une condition indispensable, ce qui n'est pas le cas vraiment pour Nadal et pour Federer.
Je suis d'accord.
Il sait peut-être qu'il n'a aucune chance sur l'autre terrain, justement, et le seul terrain sur lequel il peut devancer les deux autres, c'est en termes de nombre.
Voilà, il faut qu'il écrase tout à ce niveau-là pour dire, bon ben voilà, moi j'ai ça à mettre sur le tapis, et là-dessus, vous ne pouvez rien me dire.
C'est ce qui le rend fort, d'ailleurs. C'est ce qui le rend aussi
motivé.
Oui,
c'est aussi, il épuise une force, oui.
Très bien, merci à tous d'avoir participé à ce podcast sur qui c'est le plus fort entre Nadal, Federer ou Djokovic. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, d'Acast à Spotify, en passant par Deezer et Apple Podcast. Bertrand Millard ne sera jamais d'accord avec ce troisième homme. Merci beaucoup, à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut.
Salut à tous.
Salut.
Salut. Salut. Ciao.